Il est 7h44 minutes. La santé publique de Montréal s'inquiète d'une hausse des cas et des hospitalisations dans la dernière semaine. Juste pour vous donner une idée, là, à Montréal, il y a 617 nouveaux cas depuis les 7 derniers jours pour un total de 789 cas de COVID-19. La métropole compte aussi 18 hospitalisations de plus qu'il y a une semaine, dont 9 au cours des 24 dernières heures. Et c'est ce qui semble inquiéter la santé publique hier qui a dit, ben là, allez vous faire vacciner. Parce qu'il semble que ce soit les jeunes qui soient davantage victimes, justement, de ces nouvelles infections. Le docteur Carl Weiss est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss.
Oui, bonjour, M. Lacroix.
Alors, est-ce que vous avez noté, vous aussi, qu'il y a une hausse d'hospitalisation et de cas dans la région de Montréal?
Ben, on voit définitivement plus d'hospitalisations. On voit des hospitalisations, évidemment, ce n'est pas de la même dimension que ce qu'on a eu lors des vagues précédentes.
Ouais.
On voit surtout que ce sont des gens beaucoup plus jeunes, des gens qui n'ont pas forcément de problèmes de santé particuliers, donc c'est pas forcément des gens à très haut risque, entre guillemets. Et évidemment, à date, tous ceux qui ont été hospitalisés sont des gens qui sont non vaccinés, en tout cas de ce que j'ai vu. Ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, à peu près 85 à 90% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et c'est ce qui se retrouve ailleurs dans le monde aussi, donc c'est pas une surprise. Là, c'est dans la tendance de ce que d'autres pays ont pu voir. Donc, c'est ce qu'on voit ailleurs au Canada.
Ouais.
Donc, ça fait partie un petit peu de la tendance. Donc, oui, on a une augmentation de cas, mais c'était prévu. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Le variant Delta est au Québec déjà depuis des mois. On teste pas énormément au Québec actuellement. On teste à peu près 15 000, 16 000, 17 000 tests par jour. On est beaucoup plus bas que ce qu'on était, par exemple, durant nos pics hivernaux, où on testait 35 000, 40 000 personnes par jour. Donc, il y a aussi un certain nombre de gens qui ne sont pas testés. Donc, ce qu'on sait, c'est que le variant Delta est prédominant maintenant. On sait que c'est un variant qui se transmet beaucoup plus vite que les autres, qui se transmet à plus de personnes que les autres. Et dans le contexte aussi où il y a encore un petit nombre, parce que je faut quand même le dire, il y a quand même une grosse partie de la population québécoise qui a été vaccinée, c'est clair qu'on a plus de cas, mais c'est des cas surtout chez des plus jeunes, donc qui finissent pas forcément, heureusement, à l'hôpital.
Ouais.
Mais comme on en avait déjà discuté, même si la COVID n'est pas très sévère chez des très jeunes, on va dire des gens en bas de 30 ans, même 40 ans, si l'immense majorité de ces gens-là sont pas très, très malades, il y a de plus en plus de données qui sortent et qui démontrent une persistance de toutes sortes de symptômes chez environ un tiers de ces gens-là.
Ce qu'on appelle la COVID longue, hein, c'est ça?
Oui, ben, on n'a pas encore déterminé le vrai nom, mais on pourrait dire pour l'instant qu'on l'appellerait la COVID longue, mais qui démontre que chez environ un tiers des gens qui ont fait la COVID, et plus les jeunes, lorsqu'on regarde ce qui se passe 6 mois après, et même si certains ont fait une maladie très, très légère, là, les gens disent « j'étais à peine malade, j'ai pas fait de fièvre, j'ai eu presque rien », on s'aperçoit qu'environ un tiers de ces gens-là présentent toutes sortes de symptômes qu'on a de la difficulté à caractériser pour l'instant.
Ouais.
Mais les gens se parlent de fatigue, de difficulté de concentration, d'incapacité de faire des efforts soutenus comme avant, etc.
Vous avez parlé des tests tout à l'heure. Vous avez dit qu'on ne testait pas autant qu'on testait quand on était en pleine grande vague, là, troisième vague. Est-ce que le fait, justement, que les gens soient plus vaccinés, donc souvent peuvent être asymptomatiques, avoir la COVID, mais être totalement asymptomatiques, est-ce que ça ne vient pas fausser les données qu'on a en ce moment? En ce sens que, évidemment, les gens se font tester quand ils soupçonnent qu'ils ont peut-être la COVID, qu'ils ont certains symptômes qui leur laissent penser qu'ils ont la COVID. Or, si tu es asymptomatique, mais que tu l'as, tu ne vas pas aller te faire tester.
Alors, oui, c'est une partie de l'explication, fort probablement. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas testés parce qu'ils sont totalement asymptomatiques, il faut quand même souligner que si on teste moins, c'est pas parce qu'on a moins de capacités. Hein. Les capacités de tester au Québec sont les mêmes qu'elles étaient l'hiver dernier. Donc, c'est pas un problème d'accessibilité aux tests. Les tests sont très accessibles, la capacité de tester au Québec est bonne, donc c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'en faire, c'est tout simplement parce qu'actuellement, les gens se font moins tester, les gens sont en vacances, les gens sont plus asymptomatiques. Il y a des gens aussi qui veulent pas se faire tester parce que, évidemment, ils veulent pas se faire, entre guillemets, cibler, si vous voulez, COVID, là. même s'ils ont des symptômes ou s'ils ont eu des contacts. Alors, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a moins de gens testés de façon quotidienne, mais ça donne quand même une idée de où est-ce qu'on est rendu en termes du nombre de cas, puisque si vous regardez la tendance lourde des dernières semaines, on passait d'environ 60-65 cas par jour à 300-350 cas par jour. Donc, vous voyez qu'il y a eu une nette augmentation du nombre de cas qui va probablement continuer avec la rentrée scolaire. Et puis, c'est un peu normal. On voit certains pays où qui sont, entre guillemets, un peu plus en avance dans l'épidémie que nous, dans la dynamique de cette épidémie-là. Et on voit que les jeunes sont beaucoup, beaucoup affectés. Donc, c'est clair que plus on va avancer dans la rentrée scolaire, plus le nombre de cas risque d'augmenter. Mais il y a aussi des gens, et il y a aussi des groupes chez les jeunes, par exemple, où on sait que les gens dans les cégeps ou certaines universités, où les taux de vaccination sont quand même très bons. Alors, il ne faut pas non plus taper sur les jeunes en disant « ben c'est eux qui font ça », parce que oui, il y a moins de jeunes vaccinés proportionnellement, mais d'un autre côté, je pense qu'il est important de souligner que les vaccins sont là, c'est très ouvert actuellement. Moi, quand je vois des patients pas vaccinés, je les encourage à aller sans rendez-vous dans des centres de vaccination le plus vite possible.
Oui. Mais je voyais d'ailleurs que le taux de vaccination là chez les adolescents de 12 à 17 ans sur l'île de Montréal, environ le tiers d'entre eux n'ont pas encore reçu leur première dose et 60% n'ont pas reçu la deuxième dose. Alors, c'est peut-être là qu'il faut mettre les efforts, hein, puisque ça semble toucher davantage les jeunes en ce moment.
Oui, tout à fait. Et puis là, il y a toutes sortes de facteurs qui interviennent. Il y a des facteurs des adolescents qui ont peur des vaccins, certains. D'autres, il y a des facteurs de parents qui les découragent de se faire vacciner. Donc, il y a un ensemble de facteurs. Et je pense que là, c'est de trouver au niveau de la santé publique, du gouvernement, des stratégies qui soient des stratégies peut-être un peu différentes pour aller chercher les gens qui veulent pas se faire vacciner. Parce que ceux qui ont voulu se faire vacciner l'ont été. Donc, c'est-à-dire, parmi les jeunes, il faut quand même dire qu'il y a un grand nombre qui a été vacciné. Et ces gens-là se sont présentés spontanément pour aller recevoir leur dose. Et il y a peut-être un petit groupe qui s'est fait convaincre un peu plus. Mais il y a un groupe aussi qui ne se fera pas convaincre. Et puis, c'est correct comme ça. Là, on vit dans une société démocratique. Mais dans un sens que il y a encore des gens qui sont probablement capables d'être convaincus. Et il faut juste trouver la bonne façon, et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour vous dire quoi faire pour mieux atteindre ces groupes d'âge-là.
Bon, juste en terminant, Dr Weiss, parce que les arguments qu'on a entendus chez les jeunes, entre autres, qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est de dire que les nouveaux vaccins, surtout les ARN, là, ont été homologués trop rapidement par les différentes santé publiques, par l'OMS, par la Santé publique du Canada, etc., et que ces vaccins-là n'avaient pas été testés suffisamment. Qu'est-ce que vous répondez à un argument comme celui-là?
Bon, alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à date, on a donné plus de 1,3 milliard de doses de ces vaccins-là à ARN. Et donc, même s'il y a des effets secondaires à l'occasion, et c'est totalement normal et attendu, dans l'immense majorité des cas, on voit qu'il n'y a aucun problème et on voit l'impact et l'efficacité du vaccin, par exemple, sur le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations. Juste peut-être pour donner un cours de biologie moléculaire 101, l'ARN messager, ça fait partie de notre système. On a nous-mêmes de l'ARN messager, on en a des centaines de milliers. C'est un de nos transmetteurs qui nous permet de vivre. Donc, toutes les espèces ont de l'ARN messager pour faire de la synthèse des protéines. Et quand on vous injecte dans le vaccin l'ARN messager, c'est l'ARN messager d'une seule protéine du virus qui s'appelle la protéine S. Alors que quand vous attrapez le vrai virus, vous attrapez des quantités faramineuses d'ARN messager au passage.
Ouais.
Et vous attrapez tous les ARN messagers du virus. C'est-à-dire, il y en a d'autres parce que le virus a aussi ces dizaines d'ARN messagers. Et donc, là, quand vous avez le virus, là, de l'ARN messager, vous en avez en masse. Alors, parce que justement, c'est une façon pour le virus qui lui permet de se répliquer. De dire aux gens, on vous injecte de l'ARN messager, ben, écoutez, c'est une technologie qui existe depuis 1994 à peu près. Donc, les premiers travaux sur l'ARN messager datent de plus de 25 ans maintenant. C'est sûr que c'était une technologie qui a été faite surtout pour des vaccins contre les cancers. On va voir d'ailleurs des vaccins contre les cancers arriver avec des technologies d'ARN messager. Et moi, je vous dirais, l'ARN messager, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous-mêmes. Sans ARN messager, là, on ne serait pas vivant, personne, parce que ça fait partie de notre biologie. Et puis, quand vous avez le virus, le vrai de vrai, là, des ARN messagers, ben, vous avez toutes les couleurs, tout le menu et toute la panoplie des ARN messagers du virus. Alors, mais les vaccins, c'est comme ça. Quand on vous injecte un vaccin, on vous injecte un morceau de virus, un morceau de bactérie qui est inactivé, qui est mort, qui est limité, mais qui veut finalement vous apprendre à vous défendre contre une infection à un moment donné où justement vous êtes pas, c'est mieux que d'avoir toute l'infection. Donc ce qu'on vous fait, c'est toujours la même histoire. Je vais vous montrer que quelque chose qui a quatre roues puis un volant, c'est une auto. Sans vous donner toute l'auto. Comme ça, la journée où vous verrez une auto, vous direz, ben, quatre roues et un volant,
c'est une auto. Ouais. Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est de qu'il puisse reconnaître, justement, le virus. Docteur Weiss, comme d'habitude, c'est toujours très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Le docteur Carl Weiss est microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal.